Cet été, pour le Festival du Roi Arthur, nous avons eu l'occasion de rencontrer Clou, une artiste française. On a pu lui poser quelques questions sur sa carrière et ses créations.
Donc on est aujourd'hui avec Clou. Merci d'être avec nous sur CELAB. Donc tu es autrice, compositrice, interprète, illustratrice,
oui.
Une palette très développée.
Oui.
On va parler de ta prestation puisque tu es passée une heure avant notre
Vous
interview.
Vous avez regardé ?
Ouais, okay. On était là. Et on va également parler de tes albums.
Ok.
Donc comme je le disais tout de suite, tu étais sur la scène du Festival du Roi Arthur pendant une heure. Ton ressenti à chaud, c'est quoi ?
Chaleur.
Dis-nous tout. Ouais.
Chaleur humaine. Chaleur tout court et non, la joie surtout, les festivals c'est la joie et il faisait hyper beau, il y avait tout un... la Bretagne ce n'est jamais garanti, excusez-moi de le dire, parfois on a de la pluie et là non, on m'a dit il fait 29, t'auras le soleil en pleine face c'est à toi et en fait non, on n'avait pas le soleil en pleine face mais c'était, je sais pas, c'était trop bien, les gens sont heureux d'être là et mon groupe et moi aussi voilà, c'est encore un peu les vacances qui... continue.
Donc tu disais que les gens étaient là, ça veut dire que la Bretagne t'a bien accueilli.
La Bretagne m'accueille à chaque fois, je suis un peu gênée de le dire mais c'est un bonheur, je sais pas ce qui se passe ici, mais il y a un truc de gentillesse, il y a un truc de joie de vivre, il y a un truc de nourriture, excusez-moi aussi de le dire, ça mange bien.
Parlons un peu plus de tes projets, donc tes chansons évoquent parfois des blessures intimes,
oui.
Tu arrives à aborder des sujets sensibles sans être pour autant accablante.
Ah, merci.
C'est un équilibre qui est délicat. Comment t'arrives à trouver justement cet équilibre ?
Je pense qu'il y a un truc de... Je suis assez pudique, mais j'ai quand même... quand j'écris, je fais un exercice un peu de vérité. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à écrire des jolies chansons, des bonnes chansons, c'est quand on fait cet exercice de vérité. Et donc, ce mélange de envie de dire vraiment ce qui se passe et ce que je pense, qui n'est pas toujours super... et qui raconte pas toujours des belles histoires, mais aussi de pudeur, c'est-à-dire de me protéger, d'essayer de mettre de la poésie dedans, d'essayer de faire en sorte que les gens aient envie de l'écouter dans la voiture quand ils rentrent chez eux le soir. Et je pense surtout que ça me ressemble, c'est-à-dire que je suis un contraste. Je pense qu'au fond, je suis assez triste, mais c'est enveloppé par beaucoup de joie de vivre.
Ton premier album, Orage, il est marqué par beaucoup d'énergie, tandis que ton dernier album, à l'évidence, il semble beaucoup plus introspectif. Comment tu décrirais le chemin qui sépare les deux albums ?
J'essaie de ne pas réfléchir trop à ça, mais je pense que je suis un peu plus à l'aise. Et je sais aussi que sur le premier album, on rencontre son public. Sur le deuxième album, on le garde. Et mon public qui est venu sur le premier album, il était là aussi parce qu'il était touché par des sujets. Et moi, c'est des sujets qui m'habitent, donc je vais continuer à en parler.
Comment t'as su que les chansons formaient un ensemble qui était cohérent le moment où tu t'es dit « ça y est, l'album, il est prêt ».
C'est difficile parce que j'écris beaucoup de chansons et on en enregistre beaucoup aussi. Et après, il faut choisir. Et c'est souvent, tu sais, c'est vraiment nul de dire ça, mais c'est vrai. Tu sais. En fait, parfois, tu te répètes. Ou il y a une chanson que t'aimes bien, mais elle ressemble trop à une autre. Dans la mélodie, dans le sujet, dans la tonalité. Faut pas avoir deux chansons qui ont la même tonalité, tu vois. Des trucs un peu comme ça. Qu'on essaye de faire un tout cohérent. Moi, je veux pas que les gens ils zappent. J'ai vraiment envie que quand ils lancent l'album, je sais que c'est à l'ancienne, mais quand même, quand ça lance l'album, j'ai envie que les gens ils l'écoutent en entier. Non, j'ai vraiment envie qu'il y ait un truc de relief, et le relief suppose d'enlever les chansons en trop, quoi. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on choisit. Quand l'ensemble il s'écoute d'une traite et on n'est pas saoulé.
Et quand tu composes les chansons, est-ce que tu as des mises en scène visuelles qui te viennent en même temps ?
Toujours, mais peut-être ça s'entend dans les textes. C'est toujours très imagé. Et ça me tient à cœur de le faire, mais je pense que je le fais aussi très naturellement, d'apporter de l'image à des ressentis. Et quand j'écris une chanson, c'est toujours un moment, ça part toujours d'un moment. C'est pas forcément... J'ai envie que ce soit cinématographique et j'ai envie que les gens puissent se transporter dans la chanson avec moi.
Est-ce qu'il y a des messages qui passent plus facilement par le dessin que par la musique ?
Mais je pense que je suis un peu meilleure musicienne que je suis illustratrice, donc je vais dire que la musique c'est plus fort que tout. Je trouve que le dessin, il y a un truc de sensibilité qui est fou, qui est vraiment c'est la main qui dessine et il y a quelque chose de très sensuel dans le dessin. Mais quand on chante... Je sais pas, c'est universel la musique. On peut toucher des gens qui habitent en Islande et qui comprennent pas un mot de français. Je trouve ça ouf.
Et quand t'as une idée qui naît en toi,
ouais.
Comment tu sais justement si ce sera un dessin, une musique, un poème ou autre ? Est-ce que t'arrives à tout de suite savoir l'avenir de ton idée ?
Non, pas du tout. Non, il faut faire. C'est comme tout, en fait, tous les arts, il faut faire. Et une fois que tu as commencé à faire, tu sais à peu près où tu vas. Parfois, la chanson, elle n'existe pas, c'est juste un poème et c'est très bien. Et après, tu vois s'il y a matière à faire une chanson ou s'il n'y en a pas. Ou si c'est mieux de faire un tout petit dessin dans un coin de ta page et ça suffit. Et, voilà. Et parfois, c'est les trois. Hein.
Est-ce que ça t'arrive de recevoir des messages d'auditeurs qui se sentent soutenus par tes textes ?
Je crois que c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour transmettre des émotions et pour créer du lien. Et quand des personnes sont touchées par ce que je fais, c'est le plus beau cadeau, quoi.
Comment tu fixes ta limite entre ta vie privée et ce que tu choisis de livrer ?
Je pense que je dis des trucs hyper personnels, mais j'ai pas l'impression de dévoiler des énormes secrets. Je crois pas que ça soit de ce domaine-là. J'essaie juste de dire un truc vrai.
On l'a dit, t'hésites pas à aborder l'intime également dans tes textes.
Ouais.
Tu collabores beaucoup avec beaucoup d'artistes.
Ouais.
Et est-ce que cet aspect-là de ton travail, il compte dans le choix de tes collaborations ?
Eh ben, il y a un truc... En fait, c'est toujours des rencontres professionnelles, c'est-à-dire musicales. Est-ce que j'aime la musique que font les artistes avec lesquels je collabore ? Et ensuite, on les rencontre. Et parfois, ça le fait. Humainement, bah, vous le savez, c'est comme on se retrouve dans une équipe de travail. Parfois, on kiffe les personnes avec qui on travaille, puis parfois pas, quoi. Mais là, c'est pareil dans la musique. Est-ce qu'on kiffe les personnes avec qui on travaille ou pas ? Et il faut que la rencontre soit humaine aussi, parce qu'on va passer des heures avec ces gens-là. Il y aura notre nom à côté du nom de ces personnes, et on va nous en parler tout le temps. Vous avez bossé avec Bidule ? Comment ça s'est passé ? Oh, c'était horrible. Non, j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire que ça se passe bien. Et donc, on choisit comme ça. Donc, c'est des gens avec qui il y a une connexion qui se fait assez automatiquement, facilement. C'est un peu comme une amitié naissante, quoi. Il faut qu'il y ait un truc simple.
On va du coup terminer sur une dernière petite question. Si tu devais partager une anecdote, donc autre que celle que tu racontais justement en sortie de scène, ce serait quelle anecdote ?
J'en ai 12 milliards. Et j'ai rencontré un disquaire qui est passionné par son métier de disquaire. Et c'est un métier on a l'impression qu'il est en train de disparaître, mais moi je crois pas. Je crois qu'il y a encore des gens qui achètent des vinyles et des disques. Mais surtout des vinyles, ça revient bien. Et bref, il était passionné, il m'a contacté, on s'est organisé pour faire un petit showcase dans sa boutique, avant le concert principal, au Vauban, je crois que c'était au Vauban, à Brest. Et lui, il a une famille tellement belle, je l'embrasse, il s'appelle Lionel Provost, il est trop sympa, il a une famille tellement belle, il donne envie d'avoir une famille. Vous voyez ce genre de famille ? Qui vous dégoûte pas de la famille, au contraire. Vous vous dites, ah ouais, c'est pas mal en fait. Mais il n'y a pas d'anecdote dingue. Si, il m'a fait manger du Kiga Farce. J'arrive toujours pas à le dire, tu sais, après 6 mois là. Je m'en souviens. Ça, c'est une belle anecdote. Me faire manger ça la veille du concert. c'était hyper bon, hein. Je critique pas le goût, c'était vraiment très très bon. Et je l'ai dit en concert et je me suis trompée dans la prononciation. Et je me suis fait, mais. Démonté par le public, mais bon, mais gentiment.
Entre mélodie et confidence, Clou nous a ouvert les portes de son univers créatif, un monde à explorer dès maintenant, sur scène, comme dans ses prochains morceaux.